Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. Nous allons parler aujourd'hui d'autonomie et de bonheur en famille. Comment rendre ton enfant autonome et heureux à la fois? Comment tu installes cette autonomie suivant l'âge de ton enfant? Peut-être que ton enfant est très jeune, peut-être qu'il est adolescent. Et donc l'autonomie va jouer sur tous les âges de notre enfant. Et cette autonomie dont on parle beaucoup dans les médias, dans les journaux, dans les livres de parentalité, peut-être que tu as eu des moments où, comme moi, tu avais du mal à l'installer. Comment faire précisément pour donner de l'autonomie à ton enfant, pour que l'ambiance en famille soit sereine et paisible, pour que chacun trouve sa place, pour que chacun soit à la fois content et à la fois respecte un cadre de vie et une ambiance familiale et collective. Donc ce sont des sujets variés, hein, tu le sais, en parentalité, il y a beaucoup de thématiques qui se croisent et qui se rejoignent. Tu en trouveras déjà beaucoup sur le podcast. J'étais enseignante pendant 22 ans en maternelle REP+, et tout ce que je disais entre deux portes aux parents d'élèves, aux papas, aux mamans qui venaient me voir, récupérer leur enfant, faire des petites réunions, des bilans, c'était des conseils que je proposais, des explications, des principes, des outils, des méthodologies qui leur ont servi au jour le jour, au quotidien, et que j'ai donc encapsulé sur le podcast. Donc tu retrouveras tous les conseils et tous les outils que j'ai créés au fur et à mesure pour que les familles puissent comprendre les besoins de l'enfant, le système émotionnel de l'enfant, et puis la manière de poser l'autorité, le cadre, de mener une éducation cohérente, que ce soit dans le triangle éducatif avec l'école, que ce soit même avec la crèche, avec l'assistante maternelle, avec les grands-parents, tout ce que vous faites déjà pour vos enfants. Ce mot autonomie peut faire un petit peu peur. Comment est-ce que vous avez mis en place l'autonomie de vos enfants? Est-ce que c'est un mot que vous avez envisagé avant la naissance de vos enfants? Est-ce que c'est à la naissance de vos enfants que vous avez commencé à réfléchir à ce que c'était l'autonomie? Est-ce que vous considérez que l'autonomie, c'est plutôt en lien avec les actions, les gestes, les verbes d'action, ou l'autonomie, c'est plus un concept un petit peu abstrait? Est-ce que les deux thématiques peuvent se rejoindre? Donc on va faire le tour aujourd'hui. Donc ce thème de l'autonomie, je l'ai abordé déjà dans les épisodes 22 et 23 sur laisser l'enfant faire des choix. Alors faire des choix suivant l'âge de votre enfant, ça peut être juste décider s'il veut manger de la poire ou de la pomme, s'il veut mettre son pantalon rouge, son pantalon vert. Le fait de lui laisser des choix, ça lui permet de voir les conséquences de ses actions, de voir les effets de ses gestes, les effets de ses décisions. Et dès qu'il a 2 ans, il va déjà comprendre que ses actions ont un effet, ont un impact, ont une conséquence. Pourquoi c'est important dans l'éducation de nos enfants? C'est que la responsabilité qu'ils vont prendre de leurs actions, de leurs gestes, de leurs décisions, de leurs paroles, se construit tout au long des 15 premières années. Depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, ils vont se rendre compte que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils décident ont des conséquences, ont un impact sur leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs meilleurs amis, leur petite copine, leur maîtresse, leur belle-mère, et tout ça. Nous, on aura beau le théoriser, on aura beau l'expliquer, le verbaliser, en bon pédagogue, en bon enseignant, en bon parent qui aime beaucoup parler, ce n'est que quand notre enfant va le ressentir, va le constater, va lui-même le cocher dans sa base de données et le remplir dans sa base de données, qui sera capable ensuite d'en tirer des conclusions. Vous avez peut-être déjà un exemple qui vous vient, c'est que quand vous dites à votre enfant « Attention, si tu fais ça, il va se passer ça », vous le prévenez de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous projetez en fait, vous faites une espèce de prophétie sur ce qui va lui arriver, alors qu'on ne maîtrise pas complètement les conséquences. Ça ne reste donc que des hypothèses. Et ce qu'il est intéressant de faire à ce moment-là, quel que soit l'âge de votre enfant, ce que je faisais avec les enfants de 2 ans dans ma classe, c'est de juste décrire ce qu'ils sont en train de faire et de poser des questions sur comment ils se sentent quand ils montent sur cet arbre en plein milieu de la forêt. Une grande partie des parents, quand ils voient un enfant monter sur l'arbre dans la forêt, va plutôt s'inquiéter, va plutôt lui dire de descendre, va plutôt lui dire « tu vas tomber » ou « fais attention ». Donc donner des consignes qui reflètent nous, notre état émotionnel, donc nos flammes dans notre cheminée des émotions. C'est l'outil que vous avez découvert dans mon univers des petits plus zen, qui est décrit dans l'épisode 9 et 10. Et toutes ces flammes qu'on ressent, nous, quand notre enfant fait quelque chose dont on ne le croit pas encore complètement capable, dont on ne le croit pas encore complètement compétent, nous inquiète, nous, parce qu'on imagine déjà les conséquences. On imagine plutôt des conséquences désagréables et négatives pour nous. Mais le fait que votre enfant monte sur cet arbre dans la forêt, c'est une magnifique occasion qu'il se sente compétent, qu'il se sente puissant, qu'il teste sa motricité fine et globale, qu'il teste son équilibre, qu'il ait envie de se challenger, de performer, de se sentir puissant, de se sentir décideur, de se sentir actif. Donc ce thème, je le rapproche très souvent, l'autonomie, de trouver sa place, de trouver sa puissance, de trouver sa compétence d'enfant. Et si il trouve sa puissance d'enfant, s'il trouve sa compétence intérieure, ça le renforce en estime de lui, ça le renforce aussi en confiance en lui. Et si notre enfant, il est confiant, qu'il a une bonne estime de lui, qu'il teste, qu'il essaye, qu'il fait des choix par lui-même et qu'il observe les conséquences de ses décisions, de ses choix, de ses prises de position, il va être ensuite compétent et autonome pour plus tard, pour ses premières décisions. L'orientation scolaire, les options, Parcoursup, son premier appart, son premier boulot, son premier stage. Donc ça se construit déjà dès le tout début de l'enfance pour qu'il puisse déjà voir qu'il a un impact sur le monde extérieur, que les parents ne sont pas là pour tout contrôler. Et vous me voyez venir, c'est donc le parent ou l'enseignant ou l'éducateur qui, lui, en se taisant et en se mettant un tout petit peu en retrait, va pouvoir laisser la place à l'enfant de comprendre les mécanismes de cause-conséquence, d'évaluer lui-même si son action a le résultat qu'il voulait ou si son action n'a pas le résultat qu'il imaginait, et de le laisser conclure pour ajuster. Et là, on touche à d'autres thèmes que vous allez retrouver dans le podcast, qui sont les fonctions exécutives, c'est l'épisode 48, et aussi le fait de responsabiliser nos enfants sur leurs émotions pour éviter, nous, de les contaminer avec nos propres peurs. Le thème des peurs, il a été abordé en épisode 111. Tout ce que je vais créer pour que mon enfant se sente puissant, heureux et autonome, va non seulement lui servir lui pour qu'il se sente fort, pour qu'il se sente grandir, pour qu'il se sente évoluer, ce qui va nourrir ses rayures de relations, d'autonomie, d'identité, de sens, de détente, d'expression et de survie. Donc ça va nourrir toutes ses rayures d'arc-en-ciel. Son arc-en-ciel de besoin, vous le retrouvez dans l'épisode 7 du podcast. Et le fait de nourrir toutes ses rayures en lui permettant de poser des actions autonomes, de poser des actions peut-être inédites qui nous inquiètent, lui par contre va tester son expertise, il va tester son pouvoir sur le monde, il va tester le fait de pouvoir avoir un petit impact à son niveau. Et au tout début, les premiers choix n'ont pas vraiment d'impact. Si l'enfant choisit ses sandales rouges au lieu de ses baskets bleues, ça ne changera pas la société. Par contre, le jour où il va absolument tenir à mettre son short, parce qu'il adore son short, c'est le short de son personnage préféré de dessin animé, et qu'il fait très froid dehors, et qu'à l'école, on va lui dire « Ah bon, mais t'es venu en short alors qu'il fait très froid ?» Là, il aura le regard extérieur. Il va s'ouvrir, il va se décentrer. Il va voir que le choix d'avoir mis un short peut interroger, peut amuser, peut être considéré par les autres à l'extérieur de lui comme différent, détonnant, divergent. Donc créez la conversation. Et vous sentez peut-être que cette rayure d'identité qu'on essaye de nourrir chez nos enfants, qu'ils se sentent grandir en réalisation, en accomplissement. Donc si on veut qu'ils se sentent grands, accomplis, heureux, équilibrés, il y a plein de petits moments dans la journée où on va pouvoir lui faire prendre conscience des impacts et des conséquences de ses actions, en le laissant un peu plus choisir et être autonome. Et à chaque fois que j'aborde ce thème-là, que ce soit en séance ou dans les épisodes de podcast ou dans les rooms, généralement j'ai l'objection de « mais comment on trouve le juste dosage pour l'autonomie de notre enfant ?» Il ne s'agit pas de lui laisser tout décider. Il ne s'agit pas non plus de ne rien lui laisser décider. Et là, ça devient difficile parce que suivant ce que tu penses aujourd'hui de l'autonomie, ce que tu penses des compétences de ton enfant et ce que tu penses aussi de ta capacité d'accompagnement, si les conséquences de ses actions ne lui conviennent pas, et je vais donner un exemple juste après, c'est là où ça va se jouer sur toi, ton évolution de parent. Tu vas pouvoir petit à petit ouvrir un peu la porte à ce qu'il fasse des choix. Mais imaginons, il décide de faire de la peinture, il va prendre toutes les couleurs, il va mélanger ça sur sa feuille, et d'un coup, il va regarder sa feuille et il va annoncer « j'aime pas, c'est moche, ça me plaît pas » et il va vouloir le déchirer. Et c'est des situations qu'on a très régulièrement avec des jeunes enfants. Si vous avez été en classe, si vous êtes vous-même accompagnant en crèche ou en centre de loisirs, vous avez déjà vu des enfants déchirer leur travail. Et c'est toujours intéressant de le laisser parler à ce moment-là, de le laisser expliquer son choix, parce que là, il a pris la conscience et la conséquence directe que son choix de couleur, son choix de forme, son intention initiale n'a pas donné le résultat qu'il voulait. Et oui, il touche à la frustration. Et oui, c'est confrontant. L'épisode sur la frustration, je crois que c'est le 101. En fait, ils sont constamment confrontés, nos enfants, à des résultats qui peuvent être frustrants, à une réalité qui n'est pas concordante avec leurs désirs. Et quand je rends mon enfant libre de choisir, autonome sur sa décision, je l'expose indirectement à ce qu'il n'est pas le résultat que moi j'aurais voulu pour lui, puisque je le rends autonome sur son choix. Je me dégage en tant que maman ou qu'enseignant d'assumer la conséquence de son action. Je lui rends sa responsabilité émotionnelle de comprendre que ses actions ont eu ce résultat-là. Et les ateliers peuvent être très dirigés à l'école ou au centre de loisirs, à la crèche aussi, ou alors les ateliers peuvent être en jeu libre, en utilisation libre du matériel. Et les deux sont complémentaires. Quand vous laissez beaucoup de matériel à un enfant, au début, il va peut-être tout balancer, il va tout déplacer dans la classe, ou vous lui mettez un grand bac sensoriel et il va tout vouloir sortir. C'est une étape logique, c'est une étape sensorielle où il veut tout toucher et tout sortir. Mais ensuite, quand il voit les conséquences d'avoir tout balancé, tout sorti, est-ce qu'il se rend compte qu'il ne pourra plus jouer avec s'il a tout mis par terre? Que ça va être compliqué de marcher dessus, qu'on risque de tomber? Une fois de plus, l'adulte, il est là pour orienter son regard et pour verbaliser et pour lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait était peut-être une bonne idée dans sa tête, ça lui a paru une bonne idée. Mais par contre, les conséquences maintenant, c'est qu'il n'y a plus rien dans le bac sensoriel. Le dessin, il l'a déchiré, donc on ne pourra plus l'accrocher. Ou alors, ce short qu'il a décidé de mettre, ça lui donne froid aux jambes. Vous voyez, là, mon rôle d'adulte, d'éducateur, de maman, c'est juste de lui faire constater le résultat de ses choix autonomes, de lui rendre cette responsabilité d'avoir choisi ça. Un enfant qui ne voudrait pas prendre son parapluie quand il pleut, on ne va pas le forcer parce qu'il apprendra beaucoup plus en étant sous la pluie sans parapluie. Et au début, il va trouver ça très drôle. Et puis peut-être qu'au bout de 2 minutes, ça ne l'amusera plus du tout. Et j'ai déjà évoqué ces sujets-là avec des mamans en classe qui emmenaient tout dans le sac à langer, vraiment tout. Elles avaient la couche de rechange, le goûter de rechange, le sac au cas où, les vêtements au cas où, et puis le parasol, et puis c'est génial, ça anticipe. Il y a beaucoup de mamans qui font ça parce qu'elles veulent se prémunir d'un débordement plus tard, d'un agacement futur, d'une frustration énorme. Peut-être qu'elles veulent éviter la crise même et la tempête émotionnelle. Et parfois, ça va marcher. Et parfois, ça ne va pas du tout marcher, en fait. Parce que quoi qu'il en ait anticipé, on n'aura pas le contrôle absolu sur les décisions, sur les actions, sur les besoins ou sur les émotions de notre enfant. Donc on a beau anticiper plein de scénarios, hein, comme un arbre à choix avec plein d'embranchements et d'arborescences, ça peut marcher pour notre enfant, des fois. Et c'est ce que je conseille, hein, si on est très stressé par nature, anticiper, ça nous permet, nous, de nous rassurer. Par contre, ça ne lui permet pas à lui de faire face à une nouveauté, une difficulté, un imprévu. Et si ton enfant a déjà entre 2 et 5 ans, et encore plus s'il est âgé de plus de 5 ans, faire face à un imprévu, faire face à une difficulté, c'est exactement ça, l'éducation. C'est lui apprendre à trouver des ressources pour faire face aux imprévus dans sa vie. Imaginons que son meilleur ami arrive vers lui et lui colle un coup de pied et lui dise « t'es plus mon copain ». Nous, en tant que parents, on n'aura pas la main pour résoudre ce problème-là. Par contre, par notre côté incarnant, par notre côté modélisant, par notre côté inspirant et dans les livres qu'on lit, dans les chansons qu'on propose, dans les films qu'on utilise, dans les sorties, il aura peut-être déjà réfléchi à cette question de l'autre me refuse un privilège, l'autre me refuse son amitié, l'autre m'annonce que je ne suis plus son ami, l'autre me tape. Comment réagir si au fil du temps, on ne les a pas rendus conscients, autonomes et responsables de petits détails? Et je vais poser ça là aujourd'hui. Les mamans qui veulent tout anticiper et tout contrôler, et j'ai fait partie de ces mamans-là avec ma première fille, c'est normal, parce que nous, ça nous rassure. Mais là, on parle de nos flammes à nous, on parle de nos émotions et de nos besoins à nous. Et éduquer, élever notre enfant, éduquer nos élèves, leur donner un bagage de ressources pour que plus tard, ils n'aient plus besoin de nous, quand on ne sera plus là, quand on ne sera pas présent, c'est très précieux. Je vous ai parlé il y a quelques épisodes de ça, de ma fille qui est partie en Espagne avec une amie et la tante d'une amie. Elle va découvrir les décisions, les responsabilités, les conséquences, notamment d'utiliser tout son argent de poche dès les 2 premiers jours. Elle en tirera les conséquences. Elle va voir si ça la rend heureuse ou pas. Et elle fera, elle mémorisera, elle fera des liens et elle ajustera à partir des expériences qu'elle va vivre pour elle-même, sans moi. La première fois que vous envoyez un enfant en colonie, la première fois qu'il fait une classe découverte, il va découvrir tellement de choses en autonomie, parce que vous n'êtes plus là avec vos petites routines et vos petits rituels sécurisants. Et ça peut être confrontant. Une fois de plus, il peut se sentir un peu sur une exposition à des nouvelles options, perspectives, réaction même des autres, comportement des autres. Imaginons un enfant qui n'a jamais dormi dans une chambre avec d'autres personnes. La première fois qu'il va aller en colonie, il va être peut-être dans une chambre avec 6 enfants, dont 2 enfants ronflent, dont 2 enfants se réveillent la nuit pour aller aux toilettes. Tout ça va être nouveau, tout ça va être perturbant, tout ça va être de l'altérité, de la découverte, de la singularité de chaque enfant, de chaque fonctionnement de famille. Et notre enfant a besoin de ça pour se construire. Il a besoin d'ouvrir le monde à d'autres modes de vie, d'expression. Il peut les découvrir lors d'un voyage, il peut les découvrir lors d'un film, il peut les découvrir de manière culturelle si vous allez à une exposition, si vous travaillez sur des ouvrages de personnes qui vivent autrement que nous. Mais la meilleure expérience qu'il fera, c'est de ressentir lui-même que sa décision, son choix, son action, sa parole a eu tel, tel, tel impact, sans passer par notre filtre de parents de « tu aurais dû faire comme ça, je te l'avais bien dit, pourquoi tu m'écoutes pas, moi je sais ». Et ce côté descendant de la parentalité, ce côté descendant de l'éducation qui est dans nos gènes, hein, qui a été pendant des siècles et des siècles, on le dit souvent sur le podcast et sur Clubhouse, on n'a pas appris à faire autrement et on se sent l'expert de la vie. Parce que nous, on a peut-être 30 ou 40 ans de plus que notre enfant. Mais même nous, on est encore surpris par la vie. Nous aussi, on aime bien mettre en place des nouvelles actions, se sentir renaître parce qu'on découvre un nouveau sport, on découvre une nouvelle association, on découvre une nouvelle personne qui a l'air géniale. À ce moment-là, quand on fait quelque chose de nouveau, reconnaissons que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on sort de notre zone habituelle, on sort de notre zone de confort et qu'on a parfois peur de cette nouveauté. Mais à la fois, c'est excitant. Nos enfants sont pareils. Quand ils commencent quelque chose de nouveau, il y a une excitation qui prend le dessus. Et ensuite, on ajuste. On se dit, oula, en fait, je suis pas très très bon au ping-pong parce que j'ai jamais fait de ping-pong. Il y a ce moment de frustration où on voudrait être compétent et on voudrait peut-être se sentir valorisé dans les yeux de l'autre, mais en fait, on est nul. Si je me mettais demain au golf, je serais sûrement complètement nulle puisque, à part sur la Wii, je n'ai jamais joué au golf. Et ces enfants-là, qui découvrent quelque chose de nouveau, on pourrait leur ouvrir le champ des possibles en disant « Ah tiens, c'est nouveau. Est-ce que tu sais comment on fait? Est-ce que tu veux essayer ?» Et les laisser découvrir, les laisser autonomes dans leur découverte d'un nouveau sujet, d'un nouveau thème, d'une nouvelle activité. On restera là en sécurité. On restera là en porte-avions. On sera toujours là pour nos enfants. On va essayer d'être un support technique, un support logistique, parfois un support financier, peut-être un support émotionnel. Mais on ne fera pas à leur place. Et donc, ce que je disais au tout début du podcast, dans l'épisode 23, c'est que les laisser faire leur propre choix nous dégage aussi sur l'avenir. On les rend compétents, on les rend autonomes. Ils ne feront pas les mêmes choix que nous parce qu'ils n'ont pas le même filtre, ils n'ont pas le même regard sur la vie que nous. Nous, on est vieux, nous, on a vécu, nous, on a un bagage. Et ce qu'on peut faire, c'est de leur rendre le plus d'informations possibles conscientes, de les faire regarder les résultats, de les faire décider et évaluer si le résultat et l'action qu'il a choisi ou l'outil qu'il a choisi est vraiment en lien avec ce qu'il voulait faire. Et là, on boucle avec une intention initiale sur la production et sur le résultat de la production. En art plastique, par exemple, à l'école, on met à disposition souvent plusieurs outils pour peindre, pour dessiner, pour coller. Et les enfants sont heureux d'avoir le choix. Parce que si on leur met un modèle d'œuvre et qu'on leur dit « fais comme l'artiste », à quel moment il y a une sorte de créativité dans cette action-là? À quel moment il se sent avoir le choix, libre, autonome? Pensez à vos deux derniers moments où vous vous êtes senti libre et autonome de décider quelque chose vraiment pour vous. Et pas pour faire plaisir, pas pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Parce que ce lien, je pensais aussi l'aborder aujourd'hui. C'est que quand on fait un choix pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, en réalité, on ne se sent pas complètement libre de faire ce choix. On le fait peut-être que nous, ça va nous faire une satisfaction et une petite flamme de fierté et une flamme de joie. Mais si en deuxième tour, on le fait pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à la maîtresse, en réalité, on perd un peu de la lumière que ça crée. On perd un peu de la joie brute, de la joie vraiment pulsionnelle d'aller faire quelque chose de nouveau qu'on a décidé nous et dont on voudrait vraiment se confronter, se tester. Peut-être que quand vous préparez vos résolutions de début d'année ou de rentrée, vous dites « Ah, cette année, je vais me mettre à ça » et que vous posez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous envisagez un nouveau chapitre, un nouveau domaine, quelque chose qui vous excite, quelque chose qui vous défie, quelque chose qui vous challenge. Et là, on est sur la rayure violette, on est sur la rayure de détente. Détente par le défi, détente par la nouveauté, défendre par le ressourcement de faire quelque chose qui sort de la routine. Moi, je parle aussi beaucoup d'évasion. J'ai parlé d'évasion dans la dernière newsletter. Et ces moments-là, nos enfants les ont aussi. C'est nouveau, c'est chouette, c'est joyeux. Oui, on n'est pas encore très compétent. Oui, ce nouveau manège, il fait à la fois peur et à la fois j'ai envie de monter dedans. Oui, cette nouvelle activité, ben, je ne sais pas encore le mode d'emploi, mais j'ai envie d'y aller parce que je vois d'autres enfants qui s'amusent et j'ai envie de faire comme eux. Donc le côté autonomie et bonheur peut arriver très vite dans la vie de l'enfant parce qu'il a des flammes de joie, d'émotion, de satisfaction, de fierté à partir de ce qu'il fait physiquement, de ce qu'il touche sensoriellement. Et le rendre conscient de ça en lui disant par exemple quand il a son premier doudou et qu'il est vraiment tout jeune, en disant « Oh, mais touche, t'as vu comme c'est tout doux ? Sur ta main, ça fait des petites caresses. Est-ce que tu aimes bien quand ça fait des petites caresses sur ta main ?» Et le jour où il voudra se sentir bien, il aura cette stratégie-là sur son éventail de stratégies. Il aura cette idée, cette lamelle sur son éventail. Pour se sentir bien, il pourra peut-être aller chercher son doudou. Il pourra peut-être caresser le petit coussin en fourrure qui est sur le fauteuil de sa mamie. Lui donner des stratégies pour qu'il se sente heureux et le rendre autonome dans le choix des stratégies pour qu'il se rende heureux fait maintenant partie des principes que je transmets en éducation. Je ne peux pas rendre heureux mon enfant sans que lui-même ne s'approprie les ressources et les stratégies pour se rendre heureux tout seul. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que tout ce que je vous propose là aujourd'hui vient titiller un peu ce que vous avez vu faire sur les choix, ce que vous avez vu faire sur la responsabilité de chacun, de ses actions, de ses paroles, de ses décisions? Et la première fois qu'on a parlé du bonheur dans l'atelier philosophique avec les moyennes sections et les grandes sections, donc c'est un atelier qu'on faisait en petits groupes, on était 8, j'en parle dans l'épisode 57, et on avait posé la question du bonheur. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et les enfants, ce jour-là, sont partis dans des directions complètement différentes, et c'est ce qui fait la force aussi d'un atelier philosophique, c'est que sur les 8 qui étaient présents ce jour-là, aucun n'est parti sur la même chose qui lui rendait de la joie, qui lui donnait du bonheur. Et ils ont pu s'enrichir mutuellement de ce que les autres avaient proposé comme solution pour se rendre heureux. Imaginons qu'un petit garçon avait expliqué que ce qui le rendait heureux, c'était de promener son chien et de jouer avec son chien dans le jardin. Les autres enfants autour de la table de l'atelier, qui n'avaient pas de chien, s'imaginaient que c'était quelque chose de nouveau puisque eux n'avaient pas la référence. Eux n'avaient pas cette stratégie-là pour se rendre heureux. Donc, ils ont ouvert les possibilités d'action pour se rendre heureux. Avoir un animal de compagnie, jouer avec, le toucher, ça peut être aussi un élément de bonheur. Et si on faisait aujourd'hui le tour de tous les gens autour de vous, leurs stratégies différentes pour se sentir heureux, il y en aurait des millions. Parce qu'on peut être créatif sur la façon dont on se rend heureux, dans la façon dont on alimente nos belles flammes, nos flammes de joie, de bonheur, de paix, d'harmonie, de sérénité, de lien. Et nos enfants voient nos choix, voient ce qu'on modélise, voient ce qu'on incarne pour nous rendre heureux. Donc ce que papa fait pour être heureux, ce que maman fait pour être heureux, ce que la grande sœur, le grand frère fait pour être heureux, ça, il y a déjà accès parce qu'il vit avec nous. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de montrer que les autres familles, les autres habitants de la ville, les autres personnes de son association de théâtre ont d'autres stratégies encore pour être heureux. Et que ça lui fait un grand, grand panel. Ça lui construit un magnifique éventail pour qu'il se rende heureux tout seul parce qu'il a conscience maintenant du nombre de choix incroyables et infinis qu'il pourra prendre en autonomie pour contribuer à son propre bonheur à lui. Et le fait qu'il puisse, s'il peut le faire avec lui-même, s'il peut avoir plein de ressources pour se rendre heureux tout seul, pour avoir beaucoup de lamelles sur son éventail de stratégies, pour savoir ce qui le rend heureux. Est-ce que c'est d'aller se promener avec son chien? Il va peut-être garder cette stratégie pendant des années. Et plus tard, adulte, il aura lui-même un chien et quand il aura des enfants, etc. Donc sa singularité du début, son option du début peut évoluer aussi. Mais s'il sait le faire pour lui-même, s'il sait se rendre heureux et avoir tout un tas d'options et de stratégies pour lui-même, imaginez ce que ça peut donner ensuite quand il sera en amitié, quand il sera en couple, quand il sera en association, quand il sera associé de son entreprise. Quand on sait le faire pour nous-mêmes, quand on sait prendre les bonnes décisions et les bons choix pour se rendre heureux nous-mêmes, on va pouvoir ne plus faire porter l'état de notre bonheur sur notre meilleur ami, notre conjoint, notre belle-mère, notre patron et notre sœur. Et je vais vous emmener vers cette responsabilité de bonheur individuel. Je ne suis pas responsable du bonheur de mes enfants, je ne suis pas responsable du bonheur de mes parents, ni de mon conjoint. Par contre, je peux m'intéresser à ses stratégies et lui révéler peut-être comment moi, j'utilise des stratégies différentes pour lui proposer d'utiliser les mêmes ou pour l'ouvrir à d'autres stratégies ou lui montrer comment font d'autres personnes pour être heureux, pour qu'il puisse piocher et picorer et se créer sa propre base de données pour qu'il soit heureux à son tour. Parce que le risque, et vous l'avez sûrement entendu autour de vous, c'est d'amalgamer mon bonheur au comportement de mon enfant. Et ça, c'est très glissant comme terrain. Je ne suis pas heureuse parce que mon enfant fait A ou B. Je suis heureuse parce que mes besoins sont comblés, parce que mes rayures d'arc-en-ciel de besoins sont satisfaites et brillantes, mais ce n'est pas mon enfant qui me rend heureuse. Et de la même façon, je vous invite à voir que ce n'est pas ce que dit ou ce que fait maman qui doit rendre heureux l'enfant. Pourtant, il y a des liens qui se tissent, hein, qui sont plus ou moins transparents entre « maman va être triste si tu fais ça ». Et vous l'avez sûrement entendu cette semaine autour de vous. Quand on induit que mon émotion d'adulte est liée à ce que fait l'enfant. Si je veux qu'un jour mon enfant soit autonome, qu'il se sente bien, qu'il ne dépende pas de relations malsaines et toxiques, je dois me désengager du fait que c'est lui qui me rend heureuse ou pas. Je ne suis pas heureuse parce que mes enfants sont obéissants, parce que mes enfants m'écoutent. Je suis heureuse parce que j'arrive à exprimer ce que j'attends, que j'arrive à comprendre mes déceptions quand leur comportement n'est pas lié à ce que j'attendais. Mais ce n'est pas la faute de mon enfant si je suis heureuse ou malheureuse. Et j'aimerais qu'on transmette à la nouvelle génération ce fait essentiel, que notre bonheur ne dépend pas des actions de nos enfants ou de nos parents. Pourtant, certaines générations ont été élevées comme ça, en disant « fais plaisir à mamie, fais plaisir à maman, va faire un bisou à tonton, comme ça il sera content ». Mais on n'est pas sur terre pour rendre heureux les autres. Ce n'est pas la priorité absolue. Dans le « fais plaisir », si vous avez des bases de coaching, on a peut-être entendu « fais plaisir aux autres ». Et bien là, ce n'est pas de l'autonomie émotionnelle et relationnelle. Si on doit faire plaisir à son parent ou faire plaisir à la mamie. Donc, on va détacher aujourd'hui l'idée que chaque personne sur Terre va pouvoir créer son propre bonheur en fonction de ses goûts, en fonction de la connaissance qu'il a de lui, en fonction de l'éducation qu'il a reçue, en fonction de la culture dans laquelle il baigne, et de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et c'est encore plus facile si l'équipage éducatif, donc les parents, la crèche, l'assistante maternelle, le périscolaire, les activités culturelles, religieuses, sont aussi dans cette énergie de « tu vas pouvoir faire des choix dans ta vie, mais sois bien conscient que tous les choix que tu vas faire vont avoir un impact sur les autres indirectement. Ce n'est pas ta priorité l'impact sur les autres, mais ça va jouer sur la collectivité, sur la citoyenneté. On ne va pas élever nos enfants en disant « sois heureux à tout prix » et écrase tout le monde, fais tes propres choix et ignore les impacts sur les copains. Et vous voyez la nuance qui revient dans cette question-là. À quel moment je peux me prioriser moi et mon bonheur si j'ai été élevée dans le sacrifice de soi et le fait plaisir aux autres? Et vous-même, dans la génération là qui écoutait des podcasts, vous avez peut-être déjà creusé cette question-là. Est-ce que vous avez été élevée dans le fait plaisir aux autres? Rends tes parents heureux, rends tes parents fiers, au détriment parfois de qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui te fait vraiment heureux. Une de mes premières clientes individuelles m'a dit un jour en séance, « Séverine, je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas ce que j'aime parce qu'on m'a toujours dit quoi faire, quoi aimer, quoi décider. Je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas qui je suis. Quand on me pose des questions, je me réfère à ce qu'on m'a dit que je devais aimer. Je me réfère à ce qu'on m'a dit que je devais penser. » Et je me relie à vous si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti ou vécu. Et sur certains domaines, notamment l'éducation, j'ai été complètement dans ce sujet-là. J'ai voulu appliquer tel quel tout ce qu'on m'avait appris sur l'éducation, l'encadrement, l'animation. Mais je n'avais pas pu remettre en question que les gens n'avaient pas toutes les références, n'avaient pas toutes les connaissances et que ça ne faisait pas sens pour moi. Donc certains savent aujourd'hui que c'est ce qui m'a aidé à quitter l'éducation nationale parce que je n'y trouvais plus la cohérence avec ce que je crois profondément de l'autonomie individuelle de chaque enfant et de chaque enseignant qui n'est pas préservée dans le système actuel scolaire. Bien sûr, hein, les réformes sont en cours, il y a plein de projets en cours, on croise les doigts, peut-être qu'un jour ça évoluera. Mais en l'état, chaque élève n'est pas autonome dans ses décisions, dans ses prises de position. Chaque enseignant n'est pas autonome puisqu'il y a des contraintes et des dissonances administratives et théoriques incroyables. Et ça ne permet donc pas de se créer dès tout petit une recette sur mesure du bonheur pour plus tard. On va semer des graines, hein. On va tenter de faire des petites choses individuellement. Et c'est pour ça que ce qu'il va vivre à l'école, votre enfant, ce qu'il va vivre au centre de loisirs, avec le tonton, avec la grand-mère, avec la marraine, avec ses voyages, tout ça reste une base de données et une réserve de stratégies possibles pour lui, de moyens, d'activités pour aller plus tard vers son propre bonheur à lui. Et je ne serai plus, en tant que parent, la seule source de ce bonheur. Je suis un passeur d'informations. Je suis un décodeur de monde extérieur. Quand votre enfant a entre 6 mois et 7 ans, c'est vous qui allez lui traduire l'extérieur, la vérité, ce que vous croyez être la réalité. Mais en fait, ça va être filtré par votre culture, par votre habitude, par votre vie à vous. Et notre enfant va s'imprégner de tout ça. Et en grandissant, il va peut-être mettre à jour certaines croyances. Parce que dans le monde professionnel, on lui avait raconté que, et en fait, ses deux premières expériences professionnelles vont être complètement différentes de ce qu'on lui a dit. Donc il ajustera en grandissant tout ce qu'on lui a transmis comme connaissances. Et surtout, il va ajuster toutes les compétences qu'il a déjà testées. Et on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais je vais poser aussi là le rôle de l'erreur, la place de l'erreur. Laissez vos enfants rater. Laissez vos enfants se foirer. Laissez vos enfants échouer. Parce que dans l'échec, dans l'erreur, dans le foirage, que ce soit un dessin, que ce soit un mouvement sportif, que ce soit un montage de cabane, c'est quand il va rater qu'il va se dire « Ah, je n'ai pas le résultat que j'attendais. Je vais modifier mon action pour avoir un résultat plus conséquent et plus correspondant à l'attente que j'avais de mon action. » Mais si on arrive en lui disant « Je vais le faire à ta place, je vais t'aider, t'es trop petit. » Qu'est-ce qu'on lui transmet ? On lui transmet qu'il n'est pas capable. On lui transmet qu'il n'est pas assez grand pour faire des choix. On lui transmet que nous, on sait faire bien. Mais heureusement qu'on sait faire bien. Vous savez le nombre d'années qu'on a testé pour savoir faire bien. Alors oui, on manque de temps. Oui, on manque de patience. Vous allez retrouver tous ces éléments-là sur le podcast et dans les offres individuelles. Mais le temps et la patience, quand on est éducateur, quand on est professeur, c'est justement ce qu'on modélise. On modélise auprès des petits que prendre le temps, c'est ça qui fait la clé du succès. Essayer, ajuster, tester, recommencer, c'est ça qui fait la clé du succès. Donc un bon éducateur, un bon parent, c'est celui qui va laisser son enfant s'approprier les conclusions de ses actions, s'approprier les ajustements nécessaires pour que le résultat la prochaine fois soit meilleur. Et pas meilleur dans les yeux de la société ou meilleur pour Instagram, meilleur dans l'estime de soi de votre enfant. Que votre enfant se sente capable de se dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça. Au début, j'y arrivais pas. Et maintenant, j'y arrive parce que je me suis entraînée, parce que j'ai testé, parce que j'ai pas abandonné. » On a un plaisir vraiment rapide actuellement dans la société. Il faut que tout aille vite. Il faut que tout soit tout cuit rapidement. On est très impatient. Je pense que ça fait du tort pour avoir vu l'évolution en 20 ans dans l'éducation nationale et même chez les enfants tout petits là que je croise à l'extérieur, on ne leur donne plus le temps de rater. On ne leur donne plus le temps de voir qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et l'exemple généralement qu'on donne, c'est les plantes, le jardin. Nos enfants voient bien qu'il ne suffit pas de vouloir pour que la plante pousse. Il ne suffit pas de planter la graine pour que demain, ça y est, on puisse manger les pommes du pommier. La patience fait partie de la réalité. Mais nous aussi, en tant que parents, on veut aller vite. Nous aussi, en tant que parents, on veut que tout soit bien fait, rapidement. Mais qu'est-ce qu'on leur transmet quand on ne les laisse pas faire? Parce que les laisser faire veut dire, au début, perdre du temps parce qu'ils ne sont pas encore compétents. Un enfant qui a appris à marcher, il n'a pas réussi à marcher en une journée. On lui a laissé le temps. Il s'est raté, il est tombé, il a trébuché, il s'est écorché les genoux. Pareil, la première fois qu'il va apprendre à faire du vélo. On leur demande d'être déjà compétents, d'être déjà experts, alors qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Ils n'ont pas pu tester. Et c'est la même chose dans l'éducation nationale. On les évalue avant même qu'ils aient pu faire des séances d'entraînement, des séances d'approfondissement. On est limite en train de faire évaluation diagnostique, évaluation finale. Il y a à peine eu une leçon entre la 1 et la 2 qu'il faut tout de suite évaluer, cocher, remplir la grille de compétences et de connaissances. Donc nous, si on a le temps de faire ça à la maison, si on a le temps de prendre justement ce recul, parce qu'on est les transmetteurs, on est les pédagogues à la maison de nos enfants. Je lui laisse le temps de tester, sensoriellement, intellectuellement. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'elle veut recommencer? Est-ce qu'elle aime le faire ou non? C'est frustrant parce que quand vous inscrivez votre enfant à un stage de tennis qui dure 2 semaines et que le premier soir il vous dit « j'aime pas le tennis, je veux plus y aller », oui, il y a un moment de doute et de flottement parce qu'on hésite à le forcer, on hésite à montrer qu'il y a une persévérance. Et dans la façon que vous allez avoir de le présenter, ça va se jouer. Parce qu'il voulait aller à ce stage de tennis, mais dès le premier jour, le prof lui a dit « tu sais rien faire ». Ah oui, en effet, au début d'un stage de tennis, on sait rien faire. Et là, c'est la place du prof que je remettrai en question, plus que l'intention de votre enfant d'abandonner. Oui, c'est dur quand on commence quelque chose de nouveau. Oui, on n'est pas expert du premier coup. Mais pour qu'il soit heureux un jour de savoir faire tout seul, de ne pas devoir constamment compter sur quelqu'un d'autre, d'être indépendant, de se sentir libre de choisir ses activités, il a fallu, en amont, qu'il teste, qu'il essaye, qu'il rate, donc qu'il s'inscrive dans des projets, même si c'est long, même si c'est difficile. Et on pourrait parler un autre jour de « est-ce qu'on a le droit d'abandonner un projet qu'on commence ?» Parce qu'on parle de ça pour les enfants, mais nous, en tant qu'adultes, on a sûrement tous commencé un projet qu'on a fini par abandonner. Parce que l'excitation du début a laissé la place à « bof, en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça ». Donc le désintérêt qu'on peut avoir au cours du projet nous parle de nos besoins, nous parle de nos émotions et nous parle de nos priorités. Les enfants sont pareils. Donc si on force notre enfant à finir son assiette, si on force notre enfant à aller jusqu'au bout de ses cours de théâtre, si on force notre enfant à dire bonjour à mamie en lui faisant un bisou, tout ça ne lui laisse pas l'autonomie, le droit de ressentir comment ça fait à l'intérieur quand on continue, quand on arrête, quand on essaye, quand on rate. Donc vous biaisez la base de données qu'il est en train de se construire en grandissant. Et on l'a tous fait, hein, une fois de plus. Hein. Je ne vais pas m'exclure de ce défaut-là, de cette erreur-là qu'on fait aussi. Parce que nous aussi, on tâtonne en éducation. Nous aussi, on tâtonne en parentalité. Et ce qui a pu marcher pour le premier enfant peut ne pas marcher pour le deuxième enfant. Ça fait aussi partie du jeu. Et je vous disais, mon ado, au début, je faisais à sa place. Au début, je pensais même à sa place. Je me rappelle, quand elle avait piscine en grande section, c'est moi qui préparais le sac de piscine pour qu'on ne l'oublie pas, pour que je ne sois pas dans le désagrément de passer pour la mère qui avait oublié le sac de piscine. Mais tout ça parlait de moi. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je faisais à sa place, que je ne la rendais pas autonome, que j'étais juste en train de nourrir mes besoins à moi, de tout bien caler, de tout bien contrôler, et on vient souvent hein, sur cette rayure de contrôle, de pouvoir, de sens et d'organisation, le parent se rassure en faisant tout à la place de l'enfant. Mais le jour où votre enfant a un pique-nique avec son association de karaté et qu'il a oublié de vous dire qu'il y avait un pique-nique et qu'il n'a pas préparé son pique-nique, ben ce jour-là, quand il va arriver au pique-nique et qu'il n'a rien à manger, il s'en rappellera beaucoup plus pour la prochaine fois. C'est une expérience qui va le marquer. C'est une expérience qui va l'autonomiser. Oui, ça va être désagréable sur le coup. Oui, il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en fonction. Peut-être qu'un copain va lui partager un peu de chips, un peu de pique-nique, ou que l'accompagnateur aura des pommes en plus, etc. Mais rien ne remplacera l'expérience intérieure de ce que nos enfants vivent. Je ne peux pas faire la décision à la place de mon enfant. Je ne peux pas m'organiser, faire des rétro-plannings à la place de mon enfant. La seule chose que je peux faire, c'est lui poser des questions pour qu'il se rende compte de l'ampleur du chantier. La première fois que mon ado a voulu aller à Paris, j'ai été ambivalente sur cette question. Je me suis dit, est-ce que je lui réexplique comment fonctionnent les lignes de métro? Et je me suis dit, non, Elle a du temps devant elle, elle n'a pas d'horaire précis. Elle voulait aller à Paris avec sa copine. Elle n'avait pas réfléchi avec sa copine à l'itinéraire. Elles avaient juste un billet pour la journée. Eh bien, je vous annonce sans surprise qu'elles ont galéré. Elles ont galéré, elles ont pris les lignes dans le mauvais sens, elles n'ont pas trouvé la station, elles se sont retrouvées à la sortie opposée de celle qu'elles avaient vue sur le plan. Et c'est normal en fait, c'est logique. Parce que quand on bidouille, quand on se foire, mais on apprend deux fois plus vite. Certains le savent aussi, moi je suis partie en Allemagne quand j'avais 19 ans, je ne savais rien faire cuire, je ne savais rien cuisiner. Et ils se sont bien foutus de ma gueule là-bas en Allemagne. Parce que à la maison, j'avais pas besoin de le faire. On m'avait rien appris à faire à part des croque-monsieur. Donc je savais même pas faire cuire des pâtes. Et quand ma fille a eu 8-9 ans, j'ai commencé à lui expliquer comment on cuisinait en vacances. On avait le temps, on n'était pas pressé. Donc elle a pu se rater au début. Au début, elle m'a fait des magnifiques spaghettis à la cannelle. C'était complètement écœurant. Mais elle a tenté des choses. Elle a expérimenté des choses. Et maintenant, elle ne se pose plus ces questions-là en disant « je ne sais pas faire ». Parce qu'elle a foiré, raté, raté, refoiré, re-raté. Et maintenant, elle sait faire. Et si vous êtes sportif ou si vous êtes musicien, vous connaissez tous ces processus-là dans l'éducation et dans l'apprentissage. Il y a un passage nécessaire où on croit qu'on sait tout faire et après, on se rend compte que non, on est incompétent. Et cette incompétence, ben oui, c'est un peu de l'humiliation intérieure, c'est un peu la honte. Mais c'est tellement normal. Comment est-ce qu'on pourrait être expert sans passer par la case entraînement? On voit les champions olympiques. Pour être champion olympique, c'est pas arrivé en deux semaines. C'est des années de réflexion, de visualisation, de technique, d'effort, de physique. Et oui, ils ont reçu des critiques. Oui, ils ont reçu des coachs. Oui, ils ont eu des moments de doute, comme tout le monde. Et c'est ça qu'on peut transmettre en éduquant nos enfants. Oui, ça va être dur. Il y a des moments où tu vas te décourager. Peut-être que ton dossier, tu n'arriveras pas à le rendre à temps. Peut-être que ton patron ne comprend pas pourquoi tu as présenté les choses de cette manière-là. Peut-être que ta meilleure amie va te faire des reproches que tu n'attends pas. Ce sont des peut-être. Nous, on peut transmettre qu'on est tombé dans des trous d'expérience. On est ressorti de certains trous avec plus ou moins de mal. Et puis, on a continué notre route. On est encore là. Et c'est grâce à tous ces trous dans lesquels on est tombé qu'on avance. Donc, laissons tomber nos enfants dans des trous de leur taille. Ils vont tester, ils vont rater. Oui, ils vont tomber de vélo le premier jour où ils feront du vélo sans roulette. Oui, ça fait partie de l'expérience. Et nous, ça nous demande de prendre du recul sur l'émotion qu'on va ressentir quand il va leur arriver quelque chose de désagréable. Beaucoup de parents actuellement veulent éviter le désagréable à leurs enfants. Quand on travaille en individuel, je leur dis, c'est justement ça l'éducation. C'est leur faire comprendre que le désagréable fait partie de la vie et qu'on va les outiller, qu'on va leur donner des ressources pour sortir le plus vite possible du désagréable. Mais vous-même aujourd'hui, vous allez vivre des choses désagréables, vous allez vivre de l'inconfort. Ça fait partie de la vie quotidienne. Nos enfants aussi vivent de l'inconfort. Et on n'est pas là pour leur dire « c'est pas grave ». Ben si, peut-être que pour lui c'est grave. Elle a perdu sa barrette, c'est grave. Combien de parents j'entendais à la sortie de l'école en disant « chut, tais-toi, je suis au téléphone. Non, c'est pas grave. Non, t'es tombé, c'est rien. » Bon, qu'est-ce qu'on rend autonome notre enfant en lui disant que ses problèmes ne sont pas importants, que ses émotions ne sont pas importantes? Oui, nous, on est noyés dans notre quotidien d'adulte. Oui, nous, on n'a pas le temps de se mettre à sa hauteur et de prendre en compte son émotion et son besoin. Mais l'éducation, c'est aussi ça. C'est se dire « mes problèmes ne sont pas les siens, ses problèmes ne sont pas les miens. Je suis là pour me décentrer un petit peu de ma colline d'adulte. Je peux aller voir sur la colline de mon enfant ce qui se joue, sur ses besoins, sur ses émotions, sur ses attentes, sur ses rêves. Est-ce qu'on se parle suffisamment de cœur à cœur en disant « mais tu sais, moi aussi j'ai fait plein d'erreurs, moi aussi j'ai raté ». La première fois que j'ai dit à ma fille que j'ai raté mon permis de conduire au premier passage, elle m'a dit « mais non, mais toi tu réussis toujours tout maman, t'es toujours la première partout ». Je fais « bah tu vois, j'avais bien fait de te dire que j'ai raté mon permis de conduire la première fois ». Les enfants peuvent idéaliser certains adultes. Puis il y a le côté aussi narcissique qu'on voit dans les réseaux sociaux, qu'on voit dans la mise en avant de tout ce qui va bien chez nous. Mais chez moi, ça pleure aussi. Et chez moi, ça crie aussi. Bien sûr que j'en fais pas ma marque de fabrique parce que je parle d'éducation bienveillante, positive, empathique. Mais heureusement qu'on est dans l'inconfort constamment. Quand j'ai mis ma fille dans l'avion pour Barcelone, j'étais inconfortable. J'avais peur pour elle, j'étais inquiète parce qu'à distance, je ne sais pas l'aider, je ne peux pas l'aider. Mais c'est mon émotion que je dois creuser. Et en attendant, elle est autonome. Elle a vécu des moments de bonheur à Barcelone. Elle a grandi. Elle a compris des choses que je n'aurais pas pu lui enseigner juste en parlant, que je n'aurais pas pu lui transmettre juste par mon savoir académique d'expérience. Et c'est ça qui fait la force des expériences de nos enfants. Nos enfants vont vivre des choses que parfois on a déjà traversées nous, donc on a des clés, on a un bagage, et parfois ils vont tomber dans des trous qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Imaginons des parents qui n'ont pas vécu le harcèlement. Si leur enfant est harcelé, il va y avoir un gros moment de confusion en disant je ne connais pas ce dossier, je ne sais pas ce qu'il en est. Je vous prends un exemple plus précis. Moi, j'ai jamais eu de bagues et je ne suis jamais allée chez l'orthodontiste. Et quand ma grande a eu besoin de bagues et d'orthodontiste, j'étais complètement perdue. C'est un domaine que je ne connaissais pas. Et donc, je lui ai dit, écoute, je n'y connais rien. On va poser toutes les questions aux spécialistes. Comme ça, je vais apprendre en même temps que toi. Je vais entendre ce qu'il te dit, ce qu'il t'explique, comment ça fonctionne, le fil à resserrer, la gouttière, les instructions. Et on a appris en même temps, on a appris au même niveau. Et cette humilité dans les connaissances des nouveaux dossiers, c'est tout à fait ça quand quelque chose d'inattendu nous arrive. Si notre enfant développe une maladie chronique qu'on ne connaissait pas nous, si il arrive quelque chose dans notre famille que un des membres est victime d'un vol à l'arraché, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel on n'a pas encore tous les réflexes d'explication, de validation. Eh bien, on va juste dire ça à notre enfant. Moi, je ne sais pas ce que ça peut être. Je n'ai pas encore vécu ça. On peut aller demander des témoignages à ceux qui l'ont vécu. On peut écouter des podcasts de témoignages de ceux qui l'ont vécu. On peut aller dans des associations de ceux qui l'ont vécu. On peut s'informer et on est à égalité, du coup. On est alliés et on est en horizontalité sur ce vécu-là. Et oui, ça va être dur, notamment parce qu'on y revient. En tant que parent, on voudrait éviter la difficulté à nos enfants. Et je vous répète que éviter la difficulté à nos enfants ne les rendra ni autonomes ni heureux. Quand on évite la difficulté à nos élèves ou à nos enfants, ils baissent les bras parce que, à la moindre difficulté scolaire, plus tard dans leurs études, ils vont se dire j'y arrive pas, je sais pas, je suis nul. Parce qu'ils n'ont pas ressenti le plaisir de dépasser une difficulté. Je schématise, hein, parce que quand ils ont testé une fois, deux fois, trois fois et que ça ne marche pas, ils sont comme nous. Il y a un moment où ils se découragent. Mais la persévérance, l'encouragement de l'adulte, l'encouragement de l'entraîneur, l'encouragement de la prof va être un petit stimulus supplémentaire pour se relancer, pour reprendre de l'élan. Sinon, on arrive à des gens, adultes et enfants d'ailleurs, hein, les deux, qui laissent tomber tout de suite. Oh non, ça, j'ai pas envie, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop long. Oui, ça va être long, ça va être compliqué. Mais la première fois que vous avez fait un crédit pour acheter une maison, ou la première fois que vous vous êtes inscrit à une compétition, vous n'étiez pas confiant. Vous aviez vu la montagne qui était devant vous pour y arriver, mais vous y êtes passé à l'action. Et maintenant, vous savourez les fruits de tout ça. Et ça, vous pouvez le transmettre à votre enfant. Repensez à trois grosses difficultés que vous avez traversées dans votre vie, que ce soit santé, que ce soit professionnel ou que ce soit relationnel. Il y a des mamans, des fois, qui me disent ben, j'ose pas parler de mon divorce à mon enfant. Ben, au contraire, mais parlez depuis votre colline. Vous avez espéré que cette relation soit équilibrée, qu'elle vous apporte des bonnes choses, que vous vous sentiez bien. Et puis au fil du temps, la relation ne vous apportait plus de satisfaction, de bonheur, de joie. C'est pour ça que vous l'avez quittée. On ne divorce pas pour faire bien devant nos enfants ou pour faire bien devant la société. Oui, ça a un impact négatif parce qu'on croit qu'on a échoué. Mais le divorce, c'est la même chose que tous les trébuchés quand on a appris à marcher. C'est une étape et ça nous permet de nous connaître beaucoup mieux nous-mêmes. Si on s'est séparé de cette personne-là, on peut très bien dire à nos enfants qu'on a pris conscience du décalage entre ce qu'on attendait et ce qu'on vivait, qu'on a essayé de recoller les choses, qu'on a essayé d'une thérapie, qu'on a essayé de discuter, mais qu'on n'y croyait plus et qu'on a décidé de mettre fin à l'expérience, à l'aventure, au projet. Et je comprends très bien que ce soit difficile de trouver les bons mots. Parce qu'une fois de plus, on a peur de rater même la conversation sur les ratages. Et on en parlait l'autre fois dans l'éducation sexuelle. Si on creuse, nous, ce que ça nous fait ressentir, la sexualité, l'éducation, la maladie chronique, tout ça, ce sont des sujets qui ne sont peut-être pas de notre expertise. Donc devant notre enfant, on aimerait que ce soit clair, concis, précis, on aimerait lui transmettre la fine fleur de notre expérience, de nos connaissances. Mais parfois, c'est juste pas possible parce qu'on n'a pas fait le tour de la question, parce qu'on n'a pas deuillé l'émotion qu'on ressent encore vis-à-vis de ce sujet-là. Si le divorce est trop frais, bah, c'est peut-être pas le bon moment de tout raconter en large et en travers. Juste de poser quelques mots en disant la relation qu'on avait avec ta mère, avec ton père, pour l'instant, elle m'apporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc, on a décidé de prendre de la distance. Ça reste factuel. J'accuse personne de mon malheur. Je ne rends pas l'autre responsable de mon malheur. Et notre enfant se dit, ok, c'est une décision d'adulte. Je comprends peut-être pas tout, mais peut-être qu'on en rediscutera et tout ça. Mais ni ne mettre ça sous le sceau du secret, du tabou et tous les thèmes qu'on avait abordés autour de la sexualité. C'est l'épisode 112, je crois, si je ne me trompe pas. Et notre enfant fera peut-être des choix complètement opposés, fera peut-être des choix complètement divergents à son tour, qu'on ne comprendra peut-être pas nous-mêmes, parce qu'on n'est pas de la même génération. Et son bonheur passera peut-être par des choix qu'on ne comprend pas, et pour lesquels on n'a pas les références et on n'a pas les antécédents, mais qui le rendront pleinement heureux. Et ça nous oblige à revisiter aussi notre rapport au bonheur. Est-ce que mon enfant peut être complètement heureux tout en ne suivant pas mes valeurs, tout en ne suivant pas mes principes, tout en ne suivant pas le filtre de projection que j'avais pour son avenir? Et c'est des grandes questions philosophiques. Hein. Ceux qui me découvrent aujourd'hui se disent « Oula, je ne m'attendais pas à ça dans cette room », mais ceux qui connaissent mes rooms savent que je vais beaucoup plus loin, en fait, dans le terme d'éducation. Parce que rendre notre enfant autonome, lui faire apprendre à mettre ses lacets, ses chaussures, à écrire, oui, ça c'est pragmatique, c'est des compétences scolaires. Mais ce que j'aime transmettre avec les familles que j'accompagne, c'est le plus tard. Le plus tard, c'est autonome émotionnellement. Le plus tard, c'est autonome, ne pas avoir peur de décevoir les gens qui vont vivre autour de lui. Ne pas avoir peur d'être inférieur, de prendre sa place, d'oser, de mener ses rêves, de mener ses projets, même si ce qu'il croit paraît complètement à la marge de ce que les autres croient. Et c'est là ce qu'on confie à nos enfants, de mettre le focus sur ce qui compte vraiment pour eux, sur ce qui les maintient en énergie, en vie, en émotion, en projet, en rêve, en désir. Si vous-même, vous avez des projets pour votre vie d'adulte, imaginez quand vous réfléchissez à ce projet-là, ça peut être, je sais pas, un tour du monde en van, quand vous pensez à ce projet-là, vous dites « Oh, ça m'excite, quoi, ça me fait vibrer. J'ai des paillettes dans les yeux rien qu'à l'idée de réaliser un jour ce projet. » Eh bien, j'aimerais qu'on souhaite la même chose à nos enfants, de réaliser eux-mêmes leur propre bonheur sur mesure. Mais pour y arriver, je reviens à ça, c'est qu'on doit lui donner des clés d'autonomie pour comprendre ses propres besoins à lui, pour comprendre ses propres émotions à lui, pour admettre que les autres ne pensent pas comme lui, mais que c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste différent. Et quand je rends mon enfant autonome, ça peut être inconfortable parce que j'admets que mon enfant va avoir un comportement qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas dans ce que j'attends de lui, qui n'est pas dans le script, qui n'est pas dans le mode d'emploi. Donc oui, pour moi, c'est une remise en question en tant qu'adulte. Toutes les situations qui vont nous arriver et qu'on n'a pas anticipées, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un accident de train, ça peut être des catastrophes dont on n'a pas la maîtrise, va être une occasion pour nos enfants de voir que nous-mêmes, on est impuissants en fait, face à la réalité extérieure. Et autant ça nous met dans une impuissance, nous, dont on n'est pas fiers, puisqu'on voudrait être un peu les héros de nos enfants, autant sur le long terme, je vous invite à regarder que ne pas être le héros de ses enfants permet à nos enfants, à leur tour, de se viander, de se foirer, de rater, parce qu'on leur décroche cette image idéale du parent parfait, parent qui sait tout, du parent qui a toutes les réponses. Parce que ça ne vous agace pas, vous, les gens qui ont toutes les réponses, qui ont tout vécu, qui savent tout? Moi, personnellement, à chaque fois que je croise quelqu'un qui sait tout sur tout, je n'ai même pas envie de lancer une conversation, en fait. Moi, je préfère les gens qui se posent des questions. Bon, ça, vous le savez maintenant. Parce que je mets du sens, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font et décident de dire ça à leurs enfants. Pourquoi les enfants réagissent comme ça? Pourquoi les parents donnent ces clés-là à leurs enfants? Moi, ça me fascine, en fait. Je suis très curieuse de savoir pourquoi les autres font différemment de ce que je pense. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux que moi ou moins bien que moi, c'est juste différent. Et nos enfants, ils ont des choix et des parcours intérieurs, intellectuels, qui sont différents des nôtres. Et c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste, on peut exercer notre curiosité sur le comportement actuel de notre enfant, qu'il ait 2, 7 ou 18 ans, et se dire, ça nourrit un de ses besoins. Je ne sais pas encore lequel. Ce comportement a un sens pour lui. Je peux aller le chercher. Je peux aller le décoder. Et c'est précisément ce qu'on fait en séance individuelle. Vous arrivez avec une situation et on va chercher en quoi cette situation, ce comportement de l'enfant, du parent, a un lien avec sa vision de la réalité, son état actuel émotionnel, ses rayures, ses flammes. Donc, si vous n'êtes pas familier avec tous ces outils, vous les retrouverez dans le podcast. Et puis bien sûr, on fait une séance individuelle dès que vous avez envie. Vous avez tous les liens dans la bio Instagram. Mais le bonheur tel qu'on le conçoit maintenant pour nos enfants n'est pas le bonheur qu'ils vont se créer plus tard. Et le bonheur que je pense pour moi n'est pas le bonheur que mes enfants cherchent. Ils peuvent s'en inspirer. Ils peuvent s'interroger sur, tiens, ma mère aime vivre à côté de la mer, par exemple. Est-ce que moi, j'ai envie d'habiter à côté de la mer ou en pleine cité financière, au plein cœur des entreprises? Pourquoi pas? Ça fait sens pour lui. Peut-être que vous avez des idéaux de calme et de paix et que votre enfant veut vivre en plein Paris, au-dessus d'une discothèque, parce qu'il aime le bruit, le monde, il est en cœur du mouvement. Et oui, ça peut être difficile à comprendre, mais peut-être que ça le rend complètement heureux. Bon, j'espère que ces pistes vous ont apporté peut-être des clés, peut-être des angles de réflexion un petit peu différentes. Je serais ravie d'en discuter avec vous, donc vous pouvez me rajouter sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite de bons moments avec vos enfants, que ce soit des tout petits loups, que ce soit vos ados, que ce soit des grands enfants, peut-être que vous êtes grands-parents aussi. Donc, quel que soit l'âge de vos enfants, ces idées que je transmets, ces outils que je transmets, vous allez pouvoir les adapter. Je tiens beaucoup à cette question d'autonomie émotionnelle et relationnelle parce que trop souvent, on se soumet en fait à des relations qu'on a installées. On veut faire plaisir à nos parents, on veut faire plaisir à nos enfants, on ne veut pas décevoir notre patron, on ne veut pas décevoir notre sœur et on s'oublie complètement. Donc prenez soin de vous, de ce que vous voulez comme bonheur d'adulte et comme vous allez l'incarner, comme vous allez le modéliser, ben, vos enfants pourront le faire aussi à leur tour et vous leur donnerez le choix de se sentir à la fois autonome, peut-être divergent, peut-être heureux et si ça ne marche pas, s'ils ont des périodes de doute, de frustration et de malheur, parce que ça va leur arriver, vous serez là en écoute, vous serez là en relais, mais vous ne serez pas les sauveurs de vos enfants. On n'est pas là pour sauver nos enfants, et tout ce qu'on va mettre en place pour qu'ils soient autonomes nous empêche, une fois de plus, de nous improviser sauveurs de la vie future de nos enfants. Donc toutes ces petites clés-là, mettez-les en perspective avec l'âge de vos enfants, avec ce que vous avez envie de mettre en place dans leur éducation, ce que vous avez déjà mis en place, hein, sans doute, au niveau des choix que vous lui laissez faire, au niveau aussi de vos projets de bonheur à vous. Et puis, prenez le temps de lui expliquer ce qui vous rend heureux, vous, en tant qu'adulte. Parce qu'il va se rendre compte que votre bonheur, eh ben, vous êtes chaque jour en train de le construire. Et ça, c'est toujours inspirant pour un enfant, plutôt que de voir son parent râler, critiquer, dire que c'est pas normal, que c'est pas juste, que c'est la faute des autres. Donc reprenez en main votre bonheur à vous pour ensuite dire à votre enfant, bah, tu sais, si tu veux être bien, si tu veux être heureux, tu as des moyens d'action, tu as des lamelles sur ton éventail de stratégies, tu es capable de changer les choses qui ne te conviennent plus. On incarne ça auprès de nos enfants, mais ça nous demande, nous, un petit pas de recul sur notre posture. Et on ne pourra pas tout t'empêcher. Je pense notamment à un ado qui serait alcoolisé au retour de boîte de nuit. On ne sera pas là. Il sera autonome. Et malheureusement, la décision de prendre le volant cette nuit-là pourrait être irréversible. Et d'autant plus, le fait d'avoir explicité les dangers, d'avoir explicité les causes-conséquences, d'avoir explicité les enjeux de sécurité physique, professionnelle, émotionnelle, psychologique, ça lui donnera des pistes pour le jour J. S'il voit quelqu'un d'alcoolisé prendre le volant, si lui-même est alcoolisé, eh bien ce jour-là, toutes les graines que tu auras semées, toutes les graines qu'il aura entendues, auront plus de chances d'aboutir. On ne pourra jamais garantir qu'il leur arrivera rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est de laisser sur son chemin tous les petits cailloux blancs dont il aura besoin. Il les prendra ou non, mais on aura mis à disposition toutes ces informations-là. Et nous, ce sera peut-être difficile d'admettre qu'il a pris une mauvaise décision selon nos critères. Mais à ce moment-là de son expérience, à ce moment-là de sa vie, cette décision lui paraissait être la bonne. Et j'entends que c'est très difficile, parce que suivant les drames qu'on a vécus, on peut se dire si jamais il n'avait pas fait ça, oui, c'est un si. C'est un si qu'on ne maîtrise pas. On peut donner toutes les qualités de croissance à une plante dans notre jardin. Si la plante meurt, la plante meurt. On n'aura pas le dernier mot sur tout ce qu'on fait dans l'éducation de nos enfants. On n'aura pas le dernier mot sur l'état de la plante que tu as semée l'année dernière. Mais on aura fait de notre mieux. Et je crois que ce délire de perfectionnisme, ce délire de maîtrise totale, comme si on était le créateur et qu'on avait la main sur tout, dessert beaucoup de nouveaux parents parce qu'ils pensent avoir la main sur l'absolu des comportements et des ressentis de leurs enfants. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour nous non plus. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite !